Tout pour investir. Investir autrement.
C'est l'heure de parler sport. Avec Nicolas Kieffer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gérant chez Montpensier Finance. On s'intéresse au sport pour finir l'émission parce que nous sommes plus que dans une année sportive. Évidemment, il y a les JO, qui n'en a pas entendu parler, mais il y a aussi l'euro en Allemagne, dont on ne parle pas du tout assez à mon goût. Cher Nicolas, rappelez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le marché du sport en 2024, dans le monde déjà.
Alors le marché du sport, c'est un marché qui est bien plus profond et large qu'on ne le pense. C'est 5 600 milliards de dollars dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est deux fois le PIB français, exactement. En revanche, en termes de croissance, c'est un petit peu plus important. C'est autour de 8% par an sur les prochaines années.
C'est mieux. Donc là, que le PIB,
c'est, voilà, c'est deux fois le PIB mondial. Et ce marché a connu un véritable boom, un bouleversement avec la pandémie mondiale il y a 4 ans. Et ça, ça a eu un impact absolument extraordinaire sur la pratique sportive et sur la façon dont les différentes générations vivent leur vie, ont un style de vie de plus en plus actif et sain.
De la pratique sportive, du bien-être à l'investissement, il n'y a qu'un pas. L'idée avec vous, c'est pendant quelques minutes, réfléchir comment on peut se positionner sur ce secteur du sport. Quels sont les moyens de miser dessus? D'abord, qu'est-ce qui vous rend confiant, cher Nicolas, que la croissance annuelle, là vous nous parlez de 8% à horizon 5 ans, estimation, qu'est-ce qui vous rend aussi confiant? Une croissance de 8%, c'est quand même soutenu. Quels sont les sous-jacents de cette croissance du secteur du sport?
Il y a plusieurs moteurs. Alors, je veux dire que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur sur des tendances qui étaient déjà un peu présentes. C'est-à-dire que la pratique sportive était en croissance, 3-4% par an. On est passé à 7-8% par an. Les différentes générations, et surtout les générations les plus jeunes, donc ce qu'on appelle les millennials, les Gen Z, donc les moins de 27 ans, qui représentent quand même plus de 50% de la population mondiale, intègrent clairement la pratique sportive et l'alimentation, le bien-être comme un élément majeur de leur style de vie, et dans leur choix de vie, dans leur choix de travail, etc. Et donc ça a été vraiment c'est un véritable moteur de croissance pour la thématique. Ensuite, on a le calendrier sportif, ça on pourra l'évoquer, mais c'est réellement quelque chose qui va jouer sur la pratique, sur l'économie du sport. Et donc, on a un calendrier sportif qui est de plus en plus dense, de plus en plus d'événements sportifs internationaux qui sont suivis par de plus en plus de spectateurs dans le monde, et eux-mêmes sont de plus en plus engagés dans ces événements sportifs. Et dernièrement, on a quand même une prise de conscience chez les pratiquants, mais également chez les gouvernements qui ont compris que c'était, d'un point de vue santé publique, c'était quelque chose d'extrêmement important de pousser les populations à pratiquer un sport, à avoir un style de vie sain. Et donc ça, clairement, on le voit dans certaines régions, qu'on peut parler en Europe, aux États-Unis, mais également en Chine, par exemple, qui a un plan quinquennal sur 5 ans d'ici 2025 qui vise à doubler l'industrie du sport sur 5 ans. Donc passer de 400 milliards en 2020 à 800 milliards en 2025. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour la thématique.
Mais oui, vous nous parlez d'une vision à 360 degrés du sport. En fait, il y a l'offre d'accompagnement pour chaque individu, il y a le sport santé, il y a le sport compétition, il y a le sport éducation. On le voit, en fait, le sport, il déborde dans plein de domaines. Est-ce que il y a une densification du calendrier sportif? Il y a les JO tous les 4 ans, il y a l'Euro côté foot tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde de football tous les 4 ans, il y a beaucoup de compétitions sportives. Est-ce que ça, vraiment, ça soutient l'économie? Est-ce que ça la noie pas un peu? Maintenant, on a tellement d'événements sportifs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a trop?
Alors, globalement, le sport professionnel, le segment du sport professionnel, c'est marginal sur les fameux 5 600 milliards que j'évoquais. Ça va être autour de 200-300 milliards de dollars dans le monde. Sauf que ces 300 milliards de dollars vont être un réel moteur sur la pratique sportive amateur. C'est que ça va refléter sur la pratique sportive amateur. Si on revient sur, par exemple, les Jeux Olympiques, ce sont des retombées économiques qui vont être autour de 6 milliards d'euros pour la France, pour 2 milliards d'investissements. Si on regarde plus dans le détail, dans les différents acteurs de la thématique, on voit que c'est quand même une formidable occasion pour les principales marques, les principaux équipementiers, de montrer les dernières innovations sportives, les dernières technologies, que ce soit à travers leurs chaussures, leurs équipements, etc. Et donc ça, pour les géants du secteur, mais également pour les nouvelles marques qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. On peut évoquer Lululemon qui équipe la délégation olympique canadienne, ou encore On Running qui qui équipe l'équipe suisse. Et donc là, clairement, pour ces marques-là, c'est un formidable tremplin pour la notoriété. Et enfin, la pratique sportive. Les derniers chiffres que j'ai, c'est sur la Coupe du Monde de rugby. On a évoqué des chiffres entre plus 20 et plus 30% sur le nombre d'inscriptions en club sur l'année 2023. Donc clairement, on voit que c'est un véritable moteur dans tous les aspects du terme.
Le sport professionnel qui ne pèse pas si lourd finalement dans le marché du sport et du bien-être, mais finalement qui est à l'origine de beaucoup de conversions vers le sport. Alors, comment on fait pour investir dans le sport quand on est investisseur particulier? Là, vous nous avez parlé de quelques marques. Lululemon, qui je crois est né au départ dans l'univers du yoga, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
The On Running, qui est la marque de Federer, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Au départ, c'est la basket de running, qui est maintenant, bon, on l'entend, équipe plus largement d'autres domaines sportifs. Comment on fait? On scanne les marques, on s'intéresse à des infrastructures. Qu'est-ce que vous pourrez recommander en quelques minutes à ceux et celles qui nous écoutent?
Alors, ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que c'est relativement large en termes d'acteurs. Bon, le plus évident, évidemment, ça va être les équipementiers sportifs. Donc là, clairement, comme je l'évoquais, on a les géants du secteur qu'on connaît tous et les nouvelles marques un petit peu plus innovantes qui prennent progressivement des parts de marché aux géants du secteur. Donc chez On Pensait, par exemple, on aime beaucoup les sociétés justement qui représentent cette nouveauté et cette innovation. Donc j'évoquais On Running, qui est une société suisse listée aux États-Unis. On a également des sociétés comme Deckers qui détient la marque Oka, donc qui est une marque historiquement française qui fait des chaussures de running également et qui s'est développée aussi dans le lifestyle, etc. Donc ça, c'est des sociétés qui étaient à 0% de part de marché, qui sont entre 5 et 10% sur certains segments de marché au niveau mondial. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, on va avoir l'extension qui est la pratique sportive, donc à travers par exemple les salles de sport. Et donc ça, il y a un certain nombre de salles de sport cotées, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. On a par exemple des sociétés comme Basic Fit, qui est le leader européen avec une approche un petit peu low cost, avec des acteurs un petit peu plus niches comme Sats dans les pays scandinaves, qui ont également de très, très beaux potentiels de croissance. Ensuite, si on aligne la pratique avec son style de vie, on peut parler de nutrition sportive, et donc là on a des acteurs comme Celsius Holding qui fait des boissons énergisantes, ou encore Bellring Brands sur les boissons protéinées. Et enfin, si on va encore plus large, les activités de plein air, le vélo par exemple, on a des acteurs absolument formidables comme Mips en Suède, Thule en Suède également, ou encore Shimano qui équipe pratiquement 80% des vélos dans le monde.
On le voit, l'univers d'investissement est très large entre les marques un peu, j'allais dire, les pelles et les râteaux du secteur sportif, les objets qui nous permettent de faire du sport. Vous êtes confiant qu'au-delà du calendrier sportif, on est sur une tendance à long terme, et c'était l'idée de faire le lien entre le calendrier sportif et votre portefeuille d'investissement, cher auditeur, auditrice. Merci beaucoup Nicolas Kieffer et toute l'équipe de Mon Pensier Finance qui nous aide à y voir plus clair sur ce secteur du sport. Investir dans le sport, mode d'emploi. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Vous pouvez nous épeler les deux marques de vélo que vous avez citées, les suédoises?
Alors, il y a Mips, M-I-P-S, et Thule, T-H-U-L-E.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent à la radio, à la télé, qui aiment le vélo et qui veulent peut-être passer de pratiquant à investisseur.